BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. On va parler attractivité. Est-ce que ça sert encore à quelque chose en 2021 d'être top employeur? On va poser la question à Jacques Hadou. Il est DRH d'Edenred et il vient de se faire justement certifier. Et puis moi, je suis de couleur rouge, plutôt autoritaire. Comment on fait pour parler au bleu, au jaune, au vert, à ceux qui ne communiquent pas comme nous? C'est Jean-Pascal Mollet qui va nous driver. Il est coach et spécialiste de la communication sur les couleurs. Et puis il y a des innovations dans le monde du travail et du télétravail. Le CES a proposé plein de choses. On va faire le point avec Frédéric Simotel, journaliste tech à BFM Business. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine, c'est Jacques Hadou, directeur général des ressources humaines et de la responsabilité sociétale chez Edenred. Bonjour. Edenred, c'est le créateur du ticket restaurant, leader sur le marché, 10 000 salariés, 46 pays, 50 millions d'utilisateurs, de salariés utilisateurs, et bien sûr avec des millions de commerçants partenaires. On connaît bien sûr la carte ticket resto. C'est vous qui avez inventé la carte ticket resto chez Edenred.
Tout à fait. C'est nous qui sommes le créateur du concept du ticket restaurant.
Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des cartes cadeaux.
Oui, tout à fait. Edenred, bien évidemment, c'est connu pour son ticket restaurant, mais nous sommes aussi sur d'autres activités. Par exemple, donc, c'est l'alimentation, mais c'est aussi le bien-être des collaborateurs. C'est la motivation des collaborateurs avec des produits type le Cadeos ou des produits d'incentive. C'est aussi la mobilité, qui est un secteur de plus en plus important au sein d'Edenred, où nous faisons en sorte que les
cartes transport,
mais aussi c'est tant au niveau individuel que collectif aussi, notamment aux États-Unis, par exemple. Nous aidons les entreprises à développer les transports collectifs. Et puis, c'est aussi le paiement inter-entreprise qui est l'activité la plus récente.
Est-ce que quand on travaille dans l'avantage salarié, on offre chez soi à tous ses salariés toute la palette des avantages qui existent?
Oui,
et ils ont tout.
Parce que nos collaborateurs sont nos premiers ambassadeurs. Voilà, moi, si je suis avec vous...
Ils servent de cobayes.
En tout cas, ils servent de promoteurs.
Ouais. Mais c'est-à-dire que vous, Edenred, vous êtes une entreprise dans laquelle il y a beaucoup d'avantages salariés.
Oui, nous avons les avantages salariés que nous proposons à nos clients. Bien évidemment, nos collaborateurs les ont et c'est bien normal.
Est-ce que vous avez en moyenne un ticket restaurant plus élevé que les autres?
Donc,
à Paris, on est autour de 9 euros.
Il y a un avantage fiscal de toute manière qui est
calé. Oui, c'est vrai, vous ne pouvez pas dépasser.
Voilà.
C'est très encadré.
On aimerait bien que l'avantage fiscal augmente, par contre, pour pouvoir encore donner, je dirais, une valeur faciale plus importante.
On est en semaine top employeur, c'est-à-dire qu'une bonne partie des entreprises françaises envoient des communiqués de presse pour dire qu'elles sont le meilleur employeur de France. Est-ce que ça a encore un sens, ce type de communication marque employeur, pour attirer?
En tout cas, je pense qu'avoir un label comme celui de Top Employeur, c'est toujours une bonne chose. Et à ce titre, d'ailleurs, je voudrais féliciter Karen Mogé, la DRH d'Edenred France, et toutes ses équipes qui ont œuvré et qui travaillent tous les jours pour obtenir cette certification. Donc, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi, je dirais, autre chose aujourd'hui pour l'entreprise, pour attirer les meilleurs talents. Et c'est ce que nous cherchons à faire chez Edenred tous les jours.
Mais les meilleurs talents, quand vous leur dites « je suis top employeur », ils disent « super chouette, j'arrive tout de suite » ou ils disent « attendez, il va me falloir autre chose ».
Déjà, ça peut être un bon facteur d'attractivité, parce qu'ils disent « une entreprise qui est top employeur
est forcément, déjà ça.
Voilà, c'est forcément une bonne entreprise ». Et après, il faut développer un discours, bien évidemment, au moment de pourquoi on est top employeur et quelles sont les valeurs qu'on cherche à porter en tant qu'entreprise.
Et ça leur parle. On est en pleine crise sanitaire, on espère en sortir. Il y a pas mal d'entreprises qui commencent à prendre leur part dans cette, à donner leur avis, notamment sur la question des vaccins. Est-ce que vous, comme les grosses entreprises, on avait accès à la semaine dernière qui disait nous, on est prêts chez nous à vacciner si on a l'autorisation, bien sûr. Vous, c'est quelque chose qui vous parle ou pas?
Je crois que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est qu'on puisse revenir le plus vite possible à une vie normale. Je crois que le télétravail nous permet encore aujourd'hui d'assurer la bonne qualité de service vis-à-vis de nos clients, de nos partenaires. Mais on voit bien que nos collaborateurs, une grande partie, ils ont envie de revenir. Et tout ce qui pourra contribuer à permettre aux milliers de salariés d'Edenred dans le monde à revenir sur site, et si ça passe par la vaccination, bien sûr, on le fera.
Donc si vos salariés disent « moi, j'aimerais bien qu'Edenred propose la vaccination », ça peut faire partie de...
Si je peux le faire, je le fais.
Si vous pouvez le faire, vous le faites.
Je le fais.
Aujourd'hui, c'est pas la question, mais...
Proposer, bien évidemment.
vous le feriez. Vous travaillez évidemment à l'attractivité. Il faut laisser les salariés motivés aussi. Il faut faire des points. C'est la campagne des entretiens annuels. Ouais. Vous faites toujours des entretiens annuels à date fixe chez Edenred.
Nous faisons toujours des entretiens annuels qui sont digitaux maintenant, puisque nous avons mis en place au niveau mondial ce qu'on appelle un système d'information ressources humaines digitales. Et donc voilà, entre janvier et février, c'est la campagne annuelle des entretiens qui sont importants, parce que je crois que voilà, tant au niveau d'un point de vue du manager que du collaborateur, faire un point.
Il faut ce temps.
Prendre ce temps. Vous savez, on est dans un monde où tout va de plus en plus vite.
Mais justement, on fait des feedbacks sur tout et sur n'importe quoi maintenant.
Mais vous savez, entre prendre le temps, se mettre dans une voilà en face à face et dire voilà, on a 2 heures. Et pendant ces 2 heures, on va regarder tout ce que tu as fait.
2 heures ?
Oui, je pense que 2 heures, c'est un bon timing, oui. C'est un bon timing, ça peut être 1 heure,
ah oui,
ça peut être 1 heure et demie, ça peut aller jusqu'à 2 heures.
Mais un temps long, vraiment, pour faire le point.
Parce que si c'est 10 minutes, à ce moment-là, c'est pas un entretien d'évaluation, ni de prospect, de fixation d'objectifs. Non, il faut prendre le temps. Et c'est une forme de respect. Vous savez, le respect fait partie des valeurs d'Edenred. Et respecter un collaborateur, respecter un collègue, c'est prendre le temps de l'écouter. Et moi, en tant que directeur de ressources humaines, c'est quelque chose qui est fondamental. Si vous prenez pas le temps d'écoute, si vous prenez pas le temps de l'explication, bien à ce moment-là, vous manquez de respect aux gens.
Vous l'expliquez ça à vos managers ?
Bien sûr, et nous insistons fortement là-dessus, parce que vous parliez tout à l'heure d'attractivité, de recruter. Mais ça sert à quoi de recruter ? Si une fois que les collaborateurs sont chez vous, vous les retenez pas. Et les retenir, ben ça passe par l'intérêt, bien évidemment, de ce qu'ils font tous les jours. Ça passe par l'environnement, par le package salarial, on va pas se le cacher. Mais ça passe aussi, peut-être avant tout, par ce respect, cette écoute. Être attentif à ce que veut le collaborateur, par rapport à ce qu'il a fait, mais aussi par rapport à ce qu'il souhaite faire. La formation, le développement individuel, la mobilité internationale. Ça, c'est des choses que nous avons fortement développées chez Edenred, parce qu'on sait que c'est par là que passe la rétention. Et le meilleur recrutement, c'est le collaborateur que vous retenez.
Donc ça veut dire plan de carrière, dès le départ, quand on rentre chez Edenred
Plan de carrière, ça n'existe plus.
C'est fini.
Non, par contre, perspective de carrière.
Plan oui. Vous avez raison, c'est plus plan, c'est perspective, mais quand même, on voit dans les enquêtes que les jeunes, et notamment les jeunes diplômés, attendent de l'entreprise qu'elle leur propose une évolution, même à 10 ans, même si elles vont les quitter, en fait. Elles veulent qu'il y ait un objectif.
Il faut une vision, que ce soit pour l'entreprise, dans le développement des produits, dans la croissance de la société. Et après, au sein de cette vision d'entreprise, il faut pouvoir proposer un projet aux collaborateurs. Et ce projet, ben voilà, tu rentres et voilà ce que tu pourras faire demain. Voilà quelles sont les perspectives de carrière. Si tu es, bien évidemment, dans une position de succès, parce que il faut réussir. Il y a le résultat est fondamental. Mais, eh bien voilà, tu pourras, grâce à la formation et à tes résultats, atteindre tel type de poste. Peut-être aller demain à l'international, c'est quelque chose qui compte aussi beaucoup. D'ailleurs, nous allons lancer chez Edenred une plateforme où l'ensemble des postes ouverts au niveau mondial seront disponibles. Pour permettre justement à chacun de dire, ben tiens, ah voilà, je suis en France, je suis dans un service client, ah je vois qu'il y a des postes au Brésil. Pourquoi j'irais pas tenter quelque chose au Brésil ? Pourquoi j'irais pas tenter quelque chose en Angleterre, etc. C'est offrir, je dirais, cet univers de possibilités qui fait que, bien évidemment, les collaborateurs pourront se retrouver dans ces perspectives de carrière.
Ça, c'est un vrai sujet en RH, la question de la mobilité interne et le fait que beaucoup de managers pensent que leurs salariés, enfin leurs collaborateurs, leur appartiennent et ont du mal à les voir partir, à se dire qu'ils peuvent bouger. Non seulement ils ne sont plus là de manière physique, mais en plus, ils ne leur appartiennent pas dans leur équipe. Comment ça se passe chez vous ?
D'abord, il y a ce réflexe naturel. Je suis un manager, j'ai un très bon collaborateur.
Ils sont à moi.
Mais ça, c'est naturel. Le rôle des ressources humaines dans une entreprise, c'est arriver à réguler ça. Et ça passe par quoi ? Ça passe par exemple par les talents review.
Ouais.
Moi, en tant que directeur des ressources humaines, j'organise des talent review où je demande à tous les pays de me remonter une évaluation des talents, comment ils les voient en termes de résultats, en termes de performance, en termes de potentiel. Et puis, derrière, on a est-ce que ces personnes-là sont mobiles, pas mobiles, etc. Et après, avec la communauté des ressources humaines, on travaille là-dessus.
Et donc, vous luttez en partie contre une rétention naturelle du manager.
Je préfère dire que je favorise le développement professionnel à travers la mobilité, qu'elle soit fonctionnelle, qu'elle soit internationale. Et puis aussi, quand les gens partent, on fait toujours des exit interviews. C'est important de savoir pourquoi quelqu'un part. Et là, on va voir. Est-ce que la personne part parce qu'elle a estimé qu'elle a fait son temps dans l'entreprise ?
C'est le rapport d'étonnement à l'envers, quoi. Je pars.
C'est très important. Parce que si on s'aperçoit que la personne part alors qu'on l'avait identifié comme potentiel, comme un bon collaborateur. Parce qu'à un moment, on n'a pas su justement travailler avec le manager pour favoriser son évolution, c'est un échec. Et ça, l'échec, on ne doit pas le supporter, on ne doit pas l'accepter.
La crise sanitaire, ça a révélé des talents chez vous ?
En tout cas, ça, permis, je pense, de fidéliser encore plus ses collaborateurs. Parce qu'ils ont vu la manière dont Edenred s'occupait d'eux, la manière dont, dans ce contexte tout à fait particulier, on prenait soin de nos collaborateurs. Et je pense qu'en tout cas, tous les talents qui sont chez nous ont encore plus envie d'y rester.
Il n'y a pas une inquiétude propre, justement, au fait de travailler sur le monde du travail ? Des inquiétudes en voyant les modes changer, les gens ne plus aller au bureau
Vous savez, le rôle d'une société comme Edenred, ça a toujours été d'être un précurseur. On a quasiment tout inventé dans ce métier.
Donc c'est le travail de demain là, que vous inventez.
Oui, mais on y est déjà dans demain. On y était déjà quand on a développé la digitalisation de nos produits. Plus de presque 90% de nos produits sont digitalisés. Ça veut dire qu'on était prêt déjà à être dans ce type d'environnement extrêmement mobile, extrêmement flexible. Et pour ça, il faut être très agile. Et l'agilité, c'est, je crois, une de nos grandes qualités.
Vous allez avoir le droit au même questionnaire que les autres. Vous me dites stop ou encore le CV, on continue ou on arrête ?
On continue.
Les horaires, on continue ou on arrête ?
On continue.
Les tests de personnalité, vous en faites ?
Parfois, pas toujours.
Pour quel poste vous en faites ?
Pour tous les postes exécutifs, je vais en faire, mais c'est pas forcément par là pour moi que passe, je dirais, le critère essentiel du recrutement.
Mais vous en faites. Les team building ?
Oui.
Quand on pourra en refaire ?
Oui, et encore plus. Et encore plus, et encore plus.
Plus.
Ouais.
On n'a pas fini d'aller au Puy du Fou. Alors, les Chief Happiness Officer ?
Écoutez,
vous en avez ?
Non, j'en ai pas. Je pense qu'il y a des entreprises qui en ont et s'en félicitent. Pour ma part, je préfère des bons HR Business Partners.
Des bons quoi ?
HR Business Partner.
HR, Human Resources.
Exactement, Human Resources Business Partner.
Qu'est-ce que je parle bien anglais ? La mode du feedback.
Oh, je pense que ce n'est pas qu'une mode. Moi, ça fait près de 30 ans que je fais ce métier, j'ai toujours fait des feedbacks.
Mais trop, parfois, on n'en peut plus.
Non, mais c'est, vous savez, le feedback, c'est comme tout. Il faut savoir, c'est comme le télétravail, c'est comme beaucoup de choses. Il faut savoir trouver le point d'équilibre.
Hop là, j'envoie le micro. Les entretiens de fin d'année, on a dit, on continue. Oui. LinkedIn, quel est votre rapport avec LinkedIn ?
Écoutez, j'ai un bon rapport avec LinkedIn. D'abord, je crois que c'est un outil indispensable aujourd'hui. Alors, on ne peut pas passer à côté de LinkedIn. Après, je pense que trop de communication tue la communication. Donc, j'essaie de trouver le bon équilibre. Et puis, j'aime bien aussi que ce soit mes collaborateurs, mes N-1 qui prennent la parole. Parce que je pense qu'une équipe RH.
Vous les poussez ?
Oui, je les pousse. À prendre la parole, tout à fait.
Vous répondez ?
Si vous m'écrivez, je vous répondrai.
Je vérifie, je vous préviens, je le fais à chaque fois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jacques Ardoux, directeur général ressources humaines et responsabilité sociétale d'Edenred. On va parler couleurs. Vous êtes plutôt rouge, vert, vous, dans votre comportement, vous êtes quoi ?
Moi, je suis plutôt rouge, Edenred.
Ah, moi aussi, je suis rouge, on ne pourrait pas travailler ensemble. Allez,
merci beaucoup.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Est-ce que vous êtes rouge, bleu, vert ou jaune ? C'est la question qu'on va se poser. Ça aide de connaître les couleurs, la sienne et celle des autres, pour mieux communiquer en entreprise et la communication en plein milieu de la crise sanitaire et avec tout le télétravail. C'est pas simple. On est avec Jean-Pascal Mollet. Bonjour, fondateur du cabinet coach de vente conseil. Vous allez nous aider à y voir plus clair. La méthode DISC, la méthode des couleurs, c'est pas du tout nouveau. Ça existe depuis combien de temps ?
Alors bonjour Laure et merci pour l'invitation. Donc ça existe depuis le milieu du 20e siècle, puisque ça part des travaux de Jung et puis Marston, qui est un Américain, qui est l'inventeur du détecteur de mensonges. Mais de tout temps, on essaie de comprendre les comportements. Les premières études sur les comportements, elles remontent à l'Antiquité, moins 420 ans avant Jésus-Christ, avec Empédocle, qui lui avait comparé les comportements aux quatre grands éléments. Après, on a eu Hippocrate, qui lui a amené la théorie des humeurs. Donc les humeurs étaient des fluides qu'on avait dans le corps, la bile noire, le sang et la lymphe. D'ailleurs, c'est resté, on dit il est sanguin, il est lymphatique, il est bilieux. Donc ça fait très longtemps qu'on essaie de comprendre les comportements. Et cette méthode des couleurs est plutôt issue du milieu du 20e siècle.
Donc les rouges, c'est plutôt les dominants. Les jaunes, c'est quoi, les créatifs ?
Ouais, alors c'est ça, on appelle ça la méthode DISC. Hein, donc le D pour dominant, le I pour influent, le S pour la stabilité et le C pour la conformité.
C'est pas forcément gravé dans le marbre, on peut être un peu rouge avec un peu de bleu, on n'est pas obligé d'être rouge vif, quoi.
Non, alors pas tout le monde. De toute façon, on a les quatre couleurs en nous, avec des couleurs dominantes, donc qui vont ressortir assez souvent, et des couleurs qui sont moins fortes. D'autant plus qu'on a deux types de comportements, ce qu'on est chez nous, qu'on appelle le naturel, et l'adapté, qu'on est au travail. Donc il y a des gens qui sont pareils, chez eux et au boulot, et il y a des gens qui sont différents.
Alors comment on fait pour faire travailler un rouge avec un bleu, un vert avec un jaune ? Est-ce qu'il faut faire que des équipes de vert ? Est-ce qu'il faut les mélanger ?
Quand on accède à cette formation et quand on peut la partager dans une entreprise, on comprend bien que toutes ces couleurs sont complémentaires. Et donc, il faut les faire travailler ensemble. Maintenant, il y a un message de compréhension. C'est l'objectif, c'est pas de traiter l'autre comme on aime être traité, mais plutôt de traiter comme il a besoin d'être traité. Et donc, pour un manager, c'est indispensable de comprendre comment fonctionne son équipe.
Donc, une fois que le manager, en fait, il identifie les couleurs de ses collaborateurs, presque pas pour les collaborateurs, mais pour pouvoir leur parler de la bonne manière. Donc, on ne doit pas s'adresser aux gens de la même manière en fonction de leur couleur.
C'est ça. Bah, c'est-à-dire qu'un jaune va être très, très décontracté, à parler de choses et d'autres, à raconter des blagues. Alors que le bleu, si on commence à faire ça avec lui, il ne va pas nous prendre au sérieux. Lui, il faudra lui donner des process et des choses très précises.
Le bleu aime les process. Le rouge, il aime que ça aille vite.
C'est ça. C'est-à-dire que le rouge, il est résultat, alors que le bleu, il est « j'ai respecté ce qu'on m'a dit de faire ».
Aujourd'hui, dans la crise sanitaire, avec le télétravail, la communication, c'est devenu de plus en plus compliqué. On se noie parfois dans des process, dans trop de communication, trop de blabla. En quoi les couleurs, ça peut être un outil ?
C'est vrai que dans les entreprises, c'était avant la crise sanitaire important de comprendre comment chacun fonctionne. À distance, c'est encore plus important parce qu'on est moins en contact avec notre collaborateur, donc on a encore moins la possibilité de faire des erreurs de communication. Donc vraiment à distance, c'est se dire le rouge, je vais lui parler résultat, je vais dire tiens, t'as ça à faire, je te dis pas comment. Le bleu, comme t'es à distance, je te dis tiens, il faut que tu fasses ça. Le jaune, je vais lui laisser de la créativité, je vais dire voilà, moi il faut que t'arrives à un résultat. Maintenant, tu fais un petit peu comme tu veux puisque ce sont des gens créatifs. Et puis le vert, on va jouer sur son côté qui aime rendre service, se rendre utile. Donc on va pouvoir utiliser cette corde-là. Pardon.
Ce qui veut dire que quand on est manager, avant de communiquer avec son équipe, on se pose vraiment, on se dit, voilà tel canal, comment je vais parler à mes équipes.
Il faut déjà comprendre qui on est nous, avant de comprendre comment fonctionne l'autre. Parce qu'un manager rouge, un jaune, un vert ou un bleu, forcément, c'est pas les mêmes. Et ce qui est important, c'est de comprendre surtout l'opposé. C'est-à-dire que là où j'ai le plus de difficultés, c'est le rouge face au vert et le jaune face au bleu. Parce que le rouge qui est très directif, qui fonce, et le vert qui est très posé, très calme, qui aime prendre son temps. Moi, si je ne comprends pas son fonctionnement, je vais dire, en gros, j'ai presque pas envie de le garder. Alors que pourtant, il a plein de qualités pour l'entreprise. Donc c'est déjà un autodiagnostic. Quand on fait une formation sur les couleurs, chacun peut faire son petit profil, il a un questionnaire à remplir. Moi, je lui donne ses pourcentages de couleurs, en fait, dans chaque couleur. Et puis à partir de ça, on peut travailler sur là où il est le moins présent, sa couleur la moins forte.
Est-ce que les gens sont surpris quand vous leur faites cette espèce de diagnostic ? Parce que moi, je ne vous cacherai pas, je suis rouge écarlate. Ça ne m'a pas surpris une seconde, je le sais.
Les gens, quand ils lisent le profil, en général, il n'y a pas de surprise. D'ailleurs, ce serait presque
bizarre
d'avoir des surprises. D'ailleurs, non, c'est pas moi. Non, évidemment, les gens se reconnaissent. Après, on a souvent tendance à, quand on lit son profil, de dire tiens, oui, effectivement, c'est plutôt des choses positives. Alors que si on fait lire ça à son opposé et qu'on lui dit c'est ton profil, il va jeter par la fenêtre, quoi. C'est-à-dire qu'il va dire non, c'est pas possible, je suis pas comme ça. Quoi. Non,
donc. Est-ce qu'en télétravail, il y a des couleurs qui y arrivent mieux que d'autres ?
Oui, parce que il y a des gens qui sont un petit peu plus indépendants, un petit peu plus solitaires. Le bleu, il aime bien être dans son bureau, un petit peu tout seul, pas être dérangé, être concentré sur quelque chose. Donc c'est sûr qu'il est moins embêté que le jaune, qui lui préfère la machine à café que son bureau.
La suppression de la machine à café pour le rouge, c'est pas un problème ?
Non, en général, il a la machine à café dans son bureau parce que comme ça, il gagne du temps et puis c'est plus efficace.
Alors, coachez-moi, comment je fais moi rouge pour parler aux autres, pour ne pas les assommer d'ordre ?
Ça va dépendre de qui vous avez en face de vous, parce que si vous avez des rouges, forcément, ils avancent au même rythme.
J'ai que des bleus, des jaunes, des verts.
Ah d'accord, ok. Il faut changer de métier.
Ah non.
Non. Mais donc, avec le jaune, il faut prendre un petit peu plus de temps, il faut aller boire un café avec lui, lui parler de son week-end, de ses vacances, de sa famille.
Mais ça, pour le rouge, c'est dur.
Évidemment, mais c'est forcément dur d'aller chercher une couleur qui n'est pas la nôtre.
Parce que moi, à une réunion, quand on commence par dire on va prendre un petit café, je m'énerve.
C'est,
ça me saoule.
Voilà, oui.
Donc il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort pour faire un pas vers l'autre, un demi-café. Quoi.
C'est ça, la limite du rouge, c'est qu'il est impatient. Donc il faut que ça avance, il aime faire plusieurs choses à la fois. Donc oui, le jaune, il faut créer cette convivialité. Le vert, il faut prendre le temps de lui expliquer les choses. Il a besoin de calme, il a besoin d'harmonie, qu'on parle pas trop fort, être dans un milieu agréable, voilà, que tout le monde s'entende bien. Et le bleu, il va falloir lui donner des choses qui soient très précises et des étapes très précises.
Donc détailler vraiment les choses.
Les process, lui donner, il faut que tu fasses ça. Et lui, il va faire ça. Et le résultat, à la limite, c'est même pas son sujet, c'est j'ai respecté ce que tu m'as dit de faire.
On peut ne pas y arriver du tout et dire je n'arrive pas, c'est dur quand même la communication.
Ah oui, après c'est un travail sur soi, mais c'est vrai que pour aller notamment dans son opposé, c'est là où c'est le plus compliqué. Donc si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on ne peut pas tout réussir. Donc après, si c'est dans le management, peut-être qu'il faut changer de collaborateur ou le mettre dans une autre équipe et puis se débrouiller pour avoir une équipe qui fonctionne avec soi.
Je vous promets de faire des efforts, Jean-Pascal. Je prends l'engagement ici. Je serai gentille avec les Bleus et je prendrai des petits cafés. Peut-être même des apéritifs, quand on pourra le faire. Ben, oui, ça, je suis quand même prête à faire des sacrés efforts. Merci beaucoup, Jean-Pascal, d'être venu nous voir. Jean-Pascal Mollet, fondateur du cabinet, coach de vente, conseil. On va parler initiative, innovation. Qu'est-ce que le CES nous a inventé de beau pour qu'on travaille mieux, bien sûr.
BFM Business. Happy Boulot, le mag. Business case.
On ne travaillera bien évidemment plus comme avant, au-delà de nos ordinateurs portables, la visio, les outils de partage, tout a changé dans le travail. Bonjour Frédéric Simotel.
Bonjour Laure.
Spécialiste tech pour BFM Business. On vient de finir le CES, plein d'innovations évidemment, oui. Ils adorent ça, les innovations de bureau. Qu'est-ce que vous avez retenu particulièrement ?
Alors il y a des choses très sérieuses, des choses un peu moins
Je
sérieuses.
Je veux tout moi.
Alors pour les plus sérieuses, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup, comme on est beaucoup à être en télétravail, etc. Il faut de la sécurité,
c'est un des gros axes. C'est le fameux VPN. Voilà. Personne ne savait ce que c'était il y a un an, maintenant c'est ça.
Le Virtual Private Network, en fait, on crée un canal sécurisé entre chez soi et l'entreprise. Alors avant, c'était surtout pour les patrons, c'était surtout pour les cadres, et aujourd'hui, c'est pour tout le monde, puisque même le simple comptable, il doit accéder à son application en sécurisé, qu'il n'y ait pas de failles potentielles. Et aujourd'hui, on a des outils beaucoup plus légers à installer, parce qu'avant, il fallait appeler l'ingénieur informatique, qui lui-même est en télétravail maintenant, pour lui dire comment je fais pour installer, hop, ça colle pas, c'est pas le bon port, etc. Eh bien, là, ça marche bien. Et aujourd'hui, donc avec ce VPN, on va pouvoir. Il y a tout un tas de solutions pour chiffrer les données aussi.
C'est-à-dire que n'importe quel salarié doit avoir des données chiffrées.
Oui, aujourd'hui.
C'est plus.
Après, voilà, ça peut être la circulation de certains mails, ça peut être ouvert. Si c'est piraté, c'est pas trop grave. Par contre, quand vous commencez, en ce moment, à échanger sur la rémunération, sur les primes à accorder aux uns aux autres, ou alors tout simplement sur des brevets de nouveaux produits que vous préparez, il y a quand même des données qui sont très particulière, très sensible pour l'entreprise. Et là, plus question de les envoyer sur son Gmail ou le partager dans un Google Doc. Il faut vraiment avoir un endroit partagé. Les données sensibles, ça devient important.
Bon, pour ceux qui vont dans l'entreprise, les quelques petits chanceux, ou si un jour on y retournera, il y a des choses qui changent aussi dans la communication et dans les déplacements.
Oui, alors il y a, on l'a vu au CES, ça marche plutôt bien, c'est tous ces petits robots, les robots de téléprésence, on appelle ça. Là encore, c'est des choses qu'on voyait un peu en gadget, et finalement, on se rend compte, c'est pas plus mal. Alors si vous nous voyez en télévision, c'est quoi ? C'est Ewabot, il y a des Français qui font ça, notamment, bon, il y a tout un tas de nationalités derrière tout ça, mais le principe, c'est d'avoir des robots qui vont vous représenter dans l'entreprise. C'est un chariot avec, pourquoi pas, hauteur d'homme. Il y a un écran en haut avec votre visage. Vous êtes en visioconférence chez vous et vous allez vous promener dans l'entreprise. Ça va être vos yeux, vos oreilles, votre parole. Et vous allez assister aux réunions. Et je peux vous dire que pour avoir testé ce robot...
Tiens, j'allais voir mon petit robot.
Voilà, moi je suis chez moi et je vais piloter le robot depuis chez moi, puis dire tiens, je vais aller me rendre sur le plateau de Laure Closier à Piboulot. Et donc, on va voir arriver ce petit robot qui va s'installer et qui va vivre au quotidien parce qu'on est en train de partager et vraiment avec un réalisme parce que le son est parfait.
Et les autres ont l'impression que c'est un peu de vous qui est là.
Au début, on est un peu surpris parce que c'est quand même un écran, on parle à un écran, une vidéo. Mais au fil du temps, ça y est, la personne, elle fait vraiment partie de la discussion et ça permet d'avoir un peu plus d'interactivité. Et aujourd'hui, voilà, on voit ce genre de choses qui est très pratique, très utilisé aussi dans les hôpitaux quand il y a des gens qu'on peut pas aller voir. On peut avoir ces robots et puis à l'école, bien entendu.
Un truc très à la mode, le post-it électronique. Il y a Klaxoon qui a fait quand même un carton total. Alors,
ça, c'est le truc incroyable. Il y a Yubik qui, mais Klaxoon, c'est vraiment le leader du secteur. Le post-it électronique, tout le monde disait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais
oui, on comprenait pas.
Vraiment, c'est nul. Et là, avec le confinement, on a tous compris l'intérêt de ce post-it. Et c'est même en train de relancer. Parce que vous savez, ce que l'on dit aujourd'hui en termes de télétravail, c'est qu'on a du mal à innover. On a du mal à partager nos idées parce que c'est pas la même chose que lorsqu'on est autour d'une salle de réunion. Et bien, là, avec Klaxoon, avec ce type d'outil, c'est vraiment incroyable. On va dire tout d'un coup aux 5, 6 ou même aux 30 personnes qui sont en visioconférence, tiens, on doit préparer la nouvelle stratégie commerciale, donnez vos 10 idées, vos 3, 4 idées, la plus importante sur un post-it jaune, la moins importante sur un post-it vert, et donnez-nous un peu vos idées. Et on voit toutes ces idées apparaître, alors chacun les met avec ses mots, et finalement, ça donne envie de discuter. Tiens, qui a mis qu'il fallait être plus présent sur l'Amérique du Sud? C'est moi. Hop, ça lance la discussion. Et ça permet vraiment d'avoir cette interactivité que l'on perd. En visio, c'est vrai, on a un peu de mal à lever la main, en parler un peu, enfin, ou alors il y a un vraiment bon animateur, mais en général, on reste un peu derrière son écran. Et tous ces outils sont en train vraiment d'avancer. En plus, ils sont les klaxons sont de mieux en mieux structurés. On peut ranger tout ça par idée. Il y a des comptes rendus qui peuvent être organisés derrière.
Est-ce qu'il y a un espoir pour que toutes ces vidéoconférences soient moins fatigantes, quoi, qu'on arrive quand même à se parler de manière plus fluide?
Il y a la partie techno. Je pense qu'il y a un apprentissage qui est en train de se faire. Alors déjà, première chose pour la visioconférence, apprenez à vous filmer, apprenez à vous éclairer, apprenez à parler correctement. Il n'y a rien de pire que celui qui parle de façon saccadée, qui est à moitié dans le noir. Donc ça, quand même, au bout d'un an, parce que ça fait un an,
c'est bon,
que
ces visioconférences, on est drivé.
Voilà. Il y a des kits d'ailleurs qui existent, hein. Deux petits projecteurs, la petite caméra au-dessus de l'écran. En plus, on a accès à son écran si on a besoin d'informations. Donc il y a ça. Donc déjà, ça change, hein, d'avoir une qualité pas télévision, mais il y a déjà cet aspect-là. Et puis après, jouer l'interaction. Voilà, il faut vraiment jouer l'interactivité et pas rester passif derrière son écran. C'est un moyen de pas s'ennuyer. Puis des réunions, allez, 35-45 minutes, pas plus. Hein.
Ah ouais, pas toute la journée.
Non.
Par pitié. Après, on n'en peut plus. Merci beaucoup Frédéric Simotel d'être venu nous raconter tout ça. C'est la fin d'Happy Boulot Le Mag. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bon week-end.
BFM Business, Happy Boulot Le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.